Ouais, je vous remercie d'abord d'être là, puisque pas pour venir m'écouter, ça n'a rien à voir avec ma personne, c'est surtout parce que venir vous préoccuper d'éducation à 20 h le soir, alors qu'il fait 3 degrés dehors, je trouve que c'est un bel effort. Et comme je vois qu'il y a, pardonnez-moi pour les personnes plus âgées, mais beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens, cela prouve probablement que vous vous intéressez à l'éducation, peut-être parce que vous voulez en faire votre métier, et c'est d'autant plus réjouissant pour quelqu'un qui a travaillé pendant toute sa carrière et qui continue d'ailleurs dans le milieu éducatif, dans le milieu scolaire. Je vois ainsi que la relève existe et former cette relève d'une certaine manière, lui, en tout cas, lui transmettre, puisque c'est une question de transmission, particulièrement ce qui est la joie de donner des soins éducatifs à des jeunes. Et ça, cette joie-là, j'espère que vous la partagerez. C'est d'ailleurs sans doute ce qui fait davantage que la professionnalisation de notre métier, c'est davantage, comment on pourrait dire, l'esprit dans lequel nous l'exerçons. Et cela est quelque chose d'extrêmement fort qui fait notre corporation, bien que ce terme-là soit souvent galvaudé ou même mal utilisé, bien sûr. Alors, éduquer et transmettre, c'est le titre de la conférence, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le thème qui a été proposé. C'est un thème extrêmement vaste, il est sûr qu'on ne pourrait pas l'épuiser en 3 quarts d'heure. Et même les quelques pistes que je vais donner ne vont certainement pas suffire et elles seront carentielles. Vous aurez certainement à me reprendre. Et je crois d'ailleurs qu'il est prévu, c'est le format de ces conférences, un débat, en tout cas des questions, des questionnements. Vous avez le droit d'agresser même le conférencier. Ce sont des choses qui sont tout à fait acceptables, puisque à partir du moment où on expose, non physiquement évidemment, je suis trop âgé pour me défendre, mais au moins, de toute façon, il est intéressant d'entendre ce questionnement et de pouvoir y répondre, évidemment, dans le respect les uns des autres, puisque je crois que vous venez, puisque vous êtes invité par le père Dubois et fini la paroisse, vous venez de milieu chrétien et catholique, ce qui est le garant pour nous d'une capacité à parler en frère, depuis que d'ailleurs notre pape François nous rappelle à quel point il est important de savoir se dire du bien les uns des autres, dans la vérité, bien sûr. Alors, qu'attendre de cette rencontre? Ben, si nous parlons d'éducation dans le cadre de cette intervention, dans un milieu d'église, comme je viens de le rappeler, avec le désir de comprendre et d'éclairer une question morale et sociologique importante pour la période que nous vivons, puisque nous sommes dans une période dont on sent bien qu'elle est en mutation, on pourrait d'ailleurs analyser ce genre de choses, mais c'est un lieu commun de le dire, mais c'est une réalité. Notre monde change, mais il a commencé à changer depuis fort longtemps. Bon, on le vit, c'est pour ça que nous avons l'impression de nous en apercevoir, mais c'est simplement parce que nous en prenons conscience, parce qu'il y a des périodes en même temps qui mettent davantage l'accent, les périodes actuelles, et puis les menaces qui pèsent sur les sociétés, même sur l'ensemble de la planète, et particulièrement sur les sociétés occidentales. Et je dirais de racines judéo-chrétiennes, ça c'est une évidence. Eh bien, ces menaces qui passent, pas seulement celles qui sont liées à la période actuelle de ces attentats violents, ceux qui ont lu l'actualité et qui ont l'analyse de l'actualité savent que ces attentats ont commencé depuis très très longtemps. Il y a eu des périodes, et qui ne viennent pas toujours des mêmes sources d'ailleurs. Nous sommes dans des sociétés qui peuvent être déstabilisés. Et cela nous inquiète. Parlons aussi des questions environnementales qui vous taraudent, comme nous sommes tous inquiets, puisque malgré les rassemblements internationaux qui sont censés trouver des solutions à nos problèmes, nous, beaucoup de gens disent, il semble qu'il n'y ait pas de solution dans l'immédiat et que des choses inquiétantes sont dans notre avenir. J'ai du mal à accepter ce genre de propos, Parce que, bien sûr, que l'avenir peut toujours être inquiétant, mais c'est justement la force de ce que nous avons reçu comme promesse, c'est que nous avons une espérance qui fait que, comme nous le disait Jean-Paul II en répétant ce que disait le Christ, tout simplement, n'ayez pas peur. Et dans l'éducation, il n'est pas question d'avoir peur, puisque nous sommes chargés d'avoir des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants aussi, et que ces gens-là ne doivent pas être reçus avec l'angoisse que leur avenir est un avenir incertain, mais au contraire, leur dire que leur avenir est complètement ouvert et plein d'espérance. Et c'est d'ailleurs même un des fondements pour ce qui concerne l'enseignement catholique, cette raison d'espérer en l'enfant est une chose essentielle de notre vision. Je ne veux pas faire seulement l'apologie de l'enseignement catholique dans cette soirée, parce qu'il y a peut-être des gens qui se préparent à travailler dans le public ou qui ont une autre vision. C'est une vision éducative globale, car nous partageons à ce niveau-là bien des mêmes préoccupations. Alors c'est une réflexion d'ailleurs à laquelle l'Église catholique accorde une des premières places. J'en voudrais pour témoin les grands textes de l'Église catholique, en particulier un texte de Vatican II que vous connaissez probablement, mais si vous ne le connaissez pas, eh bien c'est l'occasion d'en prendre connaissance, puisque c'est un texte court, c'est une déclaration de Vatican II. Elle s'appelle Gravissimum Educationis, ce qui signifie que l'éducation est un problème justement important. Et ce texte-là, vous pourrez le trouver facilement. Et ça, alors pour vous aider, on vous distribuera à la fin de la conférence ces feuilles sur lesquelles il y a un certain nombre de liens, puisqu'aujourd'hui on a cette chance, on en reparlera tout à l'heure, d'avoir la possibilité d'accéder directement et gratuitement la plupart du temps à des textes importants. Et pour celui qui veut se pencher sur les textes, eh bien, il suffit de le faire. On sait très bien que ce n'est pas parce que les choses sont à disposition qu'on s'en sert, mais au moins il est important de le savoir. Et ce texte-là, Gravissimum Educationis, on aura peut-être l'occasion d'évoquer, mais je pourrais au moins lire le début, la partie introductive, le préambule, et en partie en tout cas, et qui redit ce qu'est l'importance de l'éducation. Et voilà, ce texte est signé Paul VI, puisque c'est à cette époque-là qu'il a été promulgué, et il est évident que c'est un texte qui a reçu l'assentiment de l'ensemble des pères qui participaient au concile à cette époque-là. L'extrême importance de l'éducation dans la vie de l'homme et son influence toujours croissante sur le développement de la société moderne sont pour le concile œcuménique l'objet d'une réflexion attentive. En vérité, les conditions d'existence d'aujourd'hui rendent à la fois plus aisée et plus urgente la formation des jeunes ainsi que l'éducation permanente des adultes. Quand on entend éducationniste, on pense évidemment à celle des jeunes, mais vous voyez comme il est abordé aussi la formation permanente des adultes. Les hommes, en effet, dans une conscience plus aiguë de leur dignité et de leur responsabilité, souhaitent participer chaque jour plus activement à la vie sociale, surtout à la vie économique et politique. Les merveilleux progrès de la technique et de la recherche scientifique, les nouveaux moyens de communication sociale, on était en 62, et il est sûr qu'on ne pensait pas aux moyens de communication sociale, mais vous voyez que ça n'a pas pris une ride dans la mesure où ce progrès a été continu. Leur donne la possibilité, dans le moment où ils jouissent de loisirs accrus, d'accéder plus aisément au patrimoine culturel et spirituel de l'humanité et de s'enrichir mutuellement grâce aux relations plus étroites qui existent entre les groupes et entre les peuples eux-mêmes. Vous voyez que ce préambule, enfin, c'est la première partie, c'est le premier paragraphe du préambule, il a des côtés, non pas prémonitoires, mais un peu prophétiques, puisque ce qui est dit là-dedans n'a fait que se développer. Et l'avenir, on est quand même maintenant plus de 40 ans plus tard, eh bien l'avenir n'a pas contredit ce qui est dit à l'intérieur de ce texte. C'est d'autant plus remarquable. Alors, maintenant, il y a une crise, on pense qu'il y a une crise des institutions éducatives. Mais il faut garder à l'esprit que les institutions éducatives se développent avec les sociétés modernes. Il n'y en avait pas avant ce qu'on peut appeler la période ou le cycle de la modernité. Mais chacun a conscience, bien que le débat ne soit pas neuf, mais les circonstances plus nouvelles, qu'elles ne répondent apparemment plus aux aspirations contemporaines dans notre société, et qui elle-même, nous le soulignons tout à l'heure, est en mutation, ou en crise. Certains disent en crise, d'autres disent en mutation. Y a-t-il des raisons quand même de ne pas désespérer, de tenter de jeter un regard plus attentif sur la question éducative? Eh bien, évidemment, c'est un moyen de modeste de se consacrer à cela, mais en tout cas honnête pour s'ouvrir à une réflexion positive et féconde. Donc, les institutions éducatives sont une création moderne. Si vous voulez avoir une vision rapide de l'histoire de l'éducation, il y a un très grand texte qui a été édité en 1981, un texte de Louis-Henri Parias, qui s'intitule « Histoire générale de l'enseignement et de l'éducation en France » à la Nouvelle Librairie de France. C'est un texte monumental qui retrace jusqu'au XXe siècle l'ensemble de l'histoire de l'éducation, mais vraiment en partant du VIIIe siècle. Et on sait pourquoi on part du VIIIe siècle, puisque vous savez bien que si quelqu'un a inventé l'école, c'est Charlemagne. Alors, cette invention de l'école est-elle vraiment l'invention de l'école ? En tout cas, la vision historique qui est proposée par cet ouvrage part du 8e siècle, pas jusqu'à nos jours, parce que le texte est un peu ancien, puisqu'il a été édité en 81, mais il a servi pour l'enseignement catholique, pour faire un petit résumé. Et ce résumé, je le trouve fort intéressant pour le grand public, disons, qui n'aura peut-être pas le temps de se pencher sur l'histoire de l'éducation, parce qu'il y a là la matière pour, en tout cas, explorer les pistes nécessaires à comprendre ce qu'est l'histoire de l'éducation, en particulier dans notre pays. Alors, ce texte-là, il sera encore sur la feuille. C'est un Action catholique actualité, Enseignement catholique actualité numéro 359. Non, ce n'est pas celui-ci, pardon. C'est un fascicule, excusez-moi, mais vous le verrez sur le texte, qui s'intitule « Regard sur l'enseignement catholique ». Et il avait été édité justement à, je crois qu'il date de 2013, de façon à ce qu'il entoure la promulgation du nouveau statut de l'enseignement catholique et permette au grand public d'avoir une idée de ce qu'était l'enseignement catholique. Mais surtout, vous y trouverez cette partie historique qui est particulièrement intéressante et que je vais essayer de visiter relativement rapidement. Alors, et je m'arrêterai à l'Ancien Régime, parce que c'est à partir des Lumières, on peut dire, que l'institution éducative se généralise. Hein, et on fera donc le point du niveau de statistique d'éducation à la fin de l'Ancien Régime. Alors, pour Charlemagne, inventer l'école, il y a un texte que vous pourrez visiter, puisque c'est un texte précis, et qui est dans le capitulaire impérial de 789 qui s'appelait Admonitia Generalis. Il s'agit de demander, c'est une recommandation générale qui est faite à l'ensemble de l'Empire. Et là-dedans, le texte est traduit évidemment, on va le lire dans la langue d'aujourd'hui, et il est intéressant parce qu'on entend la volonté de l'empereur à cette époque-là de mettre en place un véritable système scolaire, évidemment, qui restera extrêmement embryonnaire pendant des siècles. Mais on peut le considérer comme le début du désir de constituer des institutions éducatives. Que les prêtres attirent vers eux non seulement les enfants de conditions serviles, mais aussi les fils d'hommes libres. Nous voulons que soient fondées des écoles où les enfants puissent apprendre à lire, dans chaque monastère ou évêché, corriger scrupuleusement les psaumes, les notes, c'est-à-dire l'écriture sténographique qui permettait, puisqu'on n'avait pas à cette époque-là d'enregistreur, qui permettait de prendre ce que disaient les professeurs, les conférenciers, etc. Dans chaque monastère, le chant d'église aussi, le compute, tiens, au passage c'est amusant, parce que le compute, ceux qui ont fait du latin savent que computare signifie compter, et que ça a donné l'anglais computer. Vous savez que une grande partie de la langue anglaise, en fait, c'est du français. Hein. Bon, ceux qui s'y parlent. L'essentiel du vocabulaire anglais, enfin, le vocabulaire ancien, ce sont des mots français. La grammaire et les livres religieux, parce que souvent, ceux qui souhaitent bien prier Dieu le font mal à cause de livres non corrigés. Ne permettez pas que vos élèves les altèrent, soit en les lisant, soit en les écrivant. Et s'il faut copier les évangiles, le psautier ou le missel, que des hommes d'expérience les transcrivent avec le plus grand soin. Et c'est là qu'on voit dans nos esprits l'image de ces moines copistes qui ont justement, à travers les siècles, permis que soit transmis, puisque là c'est bien la question de la transmission, que soient transmis les savoirs, les connaissances nécessaires à la constitution de nos sociétés et de notre culture. Alors, c'est pas Charlemagne lui-même, comme d'ailleurs souvent les dirigeants, qui a véritablement inventé l'école. Il s'agit plutôt de l'influence d'un moine dont le nom était Alcuin. Et c'est ce moine-là qui a influencé considérablement Charlemagne pour que soit promulguée l'idée d'école dans la plupart des monastères. Vous voyez aussi à quel point, ça c'est une question importante aussi, l'Église avait le monopole du système éducatif dès sa fondation. Mais nous sommes dans des sociétés d'ordre et des sociétés dont la transcendance légitime vient de Dieu. Hein, ce sont des sociétés chrétiennes. Alors, on peut avoir comme quelques étapes, j'en donnerai quelques-unes. Par exemple, les écoles très proches des monastères qui sont instaurées par Robert le Pieux, on est en l'an 1000, là, tout début du Moyen-Âge. Mais très peu d'enfants, en fait, sont instruits. Il y a quand même une exception à laquelle il faut réfléchir, c'est que la formation des enfants juifs, dès les premiers temps, et en plein Moyen-Âge en particulier, c'était des formations extrêmement exigeantes. Vous savez combien un garçon, et les filles à cette époque-là, on leur donnait d'autres rudiments, mais on leur demandait pendant 12 à 15 heures par jour de se mettre à l'étude. C'est une chose qui est inimaginable quand on pense à la gestion du temps scolaire aujourd'hui. Alors, à partir du XIIe siècle, le développement économique des villes fait que il y a une grande inégalité d'instruction entre les villes et les campagnes. Vous savez que dans les campagnes, c'est la majorité, l'immense majorité de la population, c'est de l'ordre de 80-20%. Hein. Aujourd'hui, les choses sont plus que inversées, évidemment. Et les 20% dans les villes, en tout cas une infime partie de ces 20%, reçoivent une instruction, alors que dans les campagnes, on est dans l'analphabétisme, l'illettrisme. Il n'est pas question d'instruction dans les campagnes. Philippe Auguste, en 1200, fonde la charte des maîtres et écoliers parisiens. La Sorbonne est fondée, peut-être que vous le savez, en 1257. Il faut retenir le nom de Guillaume d'Ockham. C'est un cordelier anglais qui a vécu de 1290 à 1349. Et ce personnage est extrêmement important parce qu'il est un des premiers à établir une distinction entre la philosophie et les sciences. C'est un des premiers à opérer la coupure épistémologique, si on peut dire. Mais cette distinction, alors, elle a un avantage important, même si nous sommes dans un milieu chrétien, c'est qu'elle permet d'émanciper la pensée vis-à-vis de l'Église, puisque si la vérité ne peut être que vérité divine, on ne pourra trouver des explications aux questions que l'on se pose, d'ordre philosophique ou scientifique, que à travers les Écritures. Or, évidemment, la modernité, c'est le moment où on peut commencer à passer en s'émancipant d'une explication uniquement à partir des Écritures sacrées. C'est d'ailleurs une réflexion qui pourrait être intéressante à propos de la question de l'islam aujourd'hui, puisque une des difficultés bien connues de l'islam aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'est pas permis, en tout cas officiellement, il n'est pas permis d'avoir une lecture critique des textes. Ce que, évidemment, le christianisme a fait avec difficulté, mais à partir, on peut dire à partir du Moyen-Âge, plus spécialement, de manière plus évidente, à partir du 15e et du 16e siècle. Voilà. Alors, au 15e siècle, en France, justement, il y a 20 universités. Il faut compter aussi l'université de Bretagne. La Bretagne était encore indépendante, n'était pas rattachée au Royaume de France, mais c'est une université, bon, pas encore française, mais c'est une université. Et des écoles municipales commencent à naître aussi, et généralement pour contrer le monopole religieux sur l'enseignement. C'est l'instruction féminine commence à progresser très très lentement. Si vous retourniez, mesdames et mesdemoiselles, dans le passé éducatif des filles, il y a eu un moment où c'était carrément lamentable, parce que les filles ne recevaient, à proprement parler, aucune instruction. Alors, et ce sont des choses qui sont fondatrices dans notre sociologie. Et il est important aujourd'hui de continuer à considérer, si on considère que cela a été un progrès pour nos sociétés, il est important de voir encore combien il existe des difficultés pour, non pas pour enseigner aux filles, puisque les filles reçoivent un enseignement aujourd'hui complètement paritaire, mais égal, mais aussi la difficulté de s'insérer socialement, qui reste encore, tous ceux qui se sont occupés d'orientation savent combien aujourd'hui c'est encore plus difficile pour les filles, surtout pour celles qui n'acquièrent pas un haut niveau d'instruction. Alors, il y a d'ailleurs un nom que vous pourriez retenir pour l'éducation féminine, c'est une pionnière en la matière. Elle a vécu de 1364 à 1430, c'est Christine de Pisan. Alors, le pouvoir royal se renforce et peu à peu compense le pouvoir religieux, et ce qui fait que l'enseignement se développe indépendamment, ou pas tout à fait indépendamment, mais parallèlement au pouvoir de l'Église. Et à partir de la Renaissance, il y a un véritable développement d'enseignement. Il y a au moins deux grands écrivains français qui sont à l'origine des grandes pensées éducatives. Vous les connaissez, il s'agit de François Rabelais. Ça peut sembler paradoxal parce que Rabelais, on le retient. Dans l'adjectif rabelaisien, on ne pense pas particulièrement à l'éducation, mais plutôt à la bonne chère et au bon vin, hein, de service du vin de frère Jean des Entomeurs. Mais il y a aussi une partie d'ailleurs qui est souvent étudiée dans les lycées. Je ne sais pas comment aujourd'hui on prend la chronologie de la littérature française, mais il était d'usage en seconde d'étudier la littérature médiévale et la littérature du XVIe siècle. Et dans la littérature du XVIe siècle, on étudiait un texte très important qui était l'éducation de Gargantua. Et dans l'éducation de Gargantua, on voit un véritable programme éducatif. Vous pourrez le retrouver au chapitre 21 de Gargantua. Je vous conseille, c'est court et extrêmement intéressant. Montaigne aussi a un certain nombre de préceptes éducatifs. Alors, pour ceux qui regretteraient que le latin soit peu à peu évacué du système éducatif, vous pourrez donner l'exemple de Montaigne. Alors, c'est lui, je le cite d'ailleurs. « Quant au reste de la maison, c'était une règle inviolable que ni mon père, ni ma mère, ni aucun valet ou chambrière ne me parlait autrement qu'en latin, avec les mots que chacun avait appris pour cela. » Montaigne n'a pas parlé français avant l'âge de 6 ans. C'était une manière radicale d'enseigner le latin. Alors, d'ailleurs, quand on reparlera de la question de la transmission ou de l'éducation, de la rupture éducative qu'il y a eu lieu récemment, disons après la guerre de 14-18, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette rupture éducative. Quand on apprenait le latin aux enfants, on l'apprenait de manière rude. J'ai un de mes collègues prédécesseurs qui est entré à la retraite avant moi et qui disait, moi je te le dis à l'oreille, mais le latin, on la prenait à coups de pied au cul. Alors c'était, et son expression triviale signifiait que dans l'éducation, on ne faisait pas dans la dentelle. Bon, il était bon d'apprendre, et même s'il fallait rudoyer, on rudoyait. Et c'est une chose qui aujourd'hui, même si certains éducateurs le revendiquent encore, c'est une chose qui est difficile à imaginer dans le système éducatif actuel. Bon, on pourra tout à l'heure, d'ailleurs, en débattre, en parler, bien sûr. Je regarde simplement l'heure pour essayer de ne pas dépasser ce qui doit être dit. Ensuite, il faut relever que Montaigne avait une idée programmatique qui est extrêmement intéressante, puisque on peut dire même que ça l'a servi de modèle pendant un certain nombre de siècles, on pourrait dire. Il préconisait l'utilisation des récits historiques, non pas apprendre l'histoire de manière austère, mais le récit historique comme un moyen d'intéresser les enfants. Parce que Montaigne pense déjà qu'il est impossible d'apprendre à un enfant qui n'éprouve pas un certain plaisir à être instruit. Il demande aussi à ce que on choisisse avec soin les enseignants. Alors, voilà ce qu'il demande pour les enseignants. C'est intéressant parce que je pense que ce sont des choses que l'on peut encore retenir aujourd'hui. Ce n'est pas une âme, ce n'est pas un corps que l'on forme, c'est un homme. Cette prééminence de l'humanité de celui qui est formé, et non pas de former quelqu'un qui, de le formater pour le préparer à un service dans la société dans laquelle nous sommes, c'est quelque chose d'essentiel à la vision éducative. Et puis ensuite, il ne s'agit pas de former un grammairien ni un logicien, mais un gentilhomme. Et quant aux enseignants, il dit, cette idée de former non pas un grammairien ni un logicien, mais un gentilhomme, je ne sais pas si vous connaissez la congrégation de Timon David, mais dans cette congrégation, Timon David disait, il s'adressait essentiellement aux enfants pauvres, mais il disait, faites en sorte d'en faire des petits marquis. Alors, pas des petits marquis hautains comme ceux de Molière, mais c'est-à-dire des enfants extrêmement bien éduqués, même s'ils venaient de milieux modestes. Oui. Et en ce qui concerne les enseignants, Montaigne disait aussi, il est important, et vous connaissez d'ailleurs cette phrase, qu'ils aient une tête, parce qu'il ne parle pas des enfants quand on dit ça, il parle bien des enseignants, qu'ils aient une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. L'importance de la formation de l'être et non pas du savoir encyclopédique. Et vous savez que c'est une dérive facile en matière éducative. Malheureusement, les guerres de religion vont provoquer une censure sur l'enseignement. Vous savez combien, d'ailleurs, l'Église catholique a empêché l'accès aux textes à cette époque-là pour lutter contre ce qu'elle considérait comme l'hérésie protestante. Et donc, cette censure-là a entraîné une ignorance importante. Finalement, la France s'est rompue à cette époque-là en deux zones. Le nord avait les écoles catholiques dominées par les paroisses et le sud, les écoles laïques dominées par les municipalités. Vous voyez que la séparation, elle est ancienne. Et d'ailleurs, elle est fondatrice même d'une sociologie de notre propre pays, pas seulement en matière éducative. Alors les jésuites, à cette époque-là aussi, ont un énorme succès. Vous savez combien les jésuites sont des éducateurs de premier ordre, et il est important de se tourner vers la pédagogie jésuite pour avoir une idée de ce que c'est que cette réflexion pédagogique sur la formation des jeunes. Formation et évangélisation, certes, mais la première chose qui est vue, c'est d'abord le souci éducatif. Alors, ils fondent leur premier collège à Messine en 1548, leur premier collège en France en 1556. En 1627, ils forment en France 40 000 élèves. Alors, ça nous semble dérisoire à côté des millions d'aujourd'hui, mais 40 000 élèves En 1627, ça représente 2/3 de la population scolaire. Cela vous donne une idée. Bon, les réticences sont importantes encore à l'instruction généralisée. Beaucoup pensent que instruire tout le monde est un danger pour la stabilité sociale. Non, parce que des gens instruits peuvent aussi remettre en cause l'ordre établi. Et c'est l'esprit des Lumières qui va généraliser l'instruction à l'ensemble de la population. On peut citer Danton à ce sujet. Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. Voilà. À la veille de la Révolution, nous arrivons à la fin de ce tour historique, si on peut dire, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. À la veille de la Révolution, la moitié des hommes du royaume, c'est-à-dire 47%, et le quart des femmes, 27%, sont alphabétisés, au moins sommairement. 270 collèges sont en activité, 105 tenus par les jésuites jusqu'à leur expulsion du territoire en 1764. Autant qu'on puisse le savoir, la population scolaire est composée d'enfants d'officiers, il ne s'agit pas de militaires, c'est-à-dire de titulaires d'office, de bourgeois et de marchands, 30 à 50%, de nobles, 10%, d'artisans, 10%, de paysans nantis, et bien tout le reste de la population, évidemment, n'est absolument pas éduqué. Enfin, en tout cas, éduqué, instruit. Voilà. Alors, je voudrais aussi rappeler l'apport des grands éducateurs catholiques, puisque l'Église a eu si longtemps le monopole de l'éducation, bien qu'il lui ait été très tôt disputé, il empêche que la modernité éducative des fondateurs des grands ordres enseignants est à souligner. Et d'ailleurs, on se rendra compte que tous se fondent sur un souci des béatitudes, un souci de l'Évangile. Par exemple, beaucoup ont le souci de permettre aux pauvres d'accéder à l'éducation. On pourrait citer peut-être, je ne dis pas le premier d'entre eux, mais une figure extrêmement importante, le fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes, Saint Jean-Baptiste de La Salle. On peut citer Victoire de Bingy, qui, dans la mouvance jésuite, qui crée des écoles du soir pour des ouvrières d'usine. On peut citer Louise de Marillac, avec les Filles de la Charité. Vous savez, dans le mouvement de Saint-Vincent de Paul, je crois que la prochaine conférence, justement, sera sur le sujet des conférences Saint-Vincent de Paul et de l'œuvre de Saint-Vincent de Paul. L'éducation est un bien et un droit pour les pauvres, dit Louise de Marillac. Et puis, elle crée aussi des écoles techniques. Elle crée les contrats d'apprentissage. Vous voyez l'importance moderne. Ça, c'est l'école catholique à cette époque-là. Ça n'est pas la même notion que celle que nous avons aujourd'hui. Il est question de favoriser l'insertion des personnes handicapées. Déjà, Louis Grignon de Montfort, de 1673-1716, ou bien les frères de Saint-Gabriel, ou les filles de la sagesse, avec Marie-Louise Trichet, sont tous promoteurs de l'éducation spécialisée pour les handicapés sensoriels. Ouais, vous voyez que ce n'est pas un souci récent. Ceux qui veulent aujourd'hui s'en occuper savent combien ils en sont les héritiers. Il y a aussi la lutte contre la discrimination. Nous parlerons par exemple de Théodore Ratisbonne qui fonde la communauté des Sœurs de Notre-Dame de Sion pour combattre toute forme de discrimination, favoriser le dialogue avec les Juifs, les rencontres interreligieuses. Vous voyez, rien de particulièrement nouveau sous le soleil, mais parce que c'est cet esprit-là qui est fondateur de l'éducation. Il s'agit de contribuer aussi à la réflexion sur les fondements de l'éducation. Saint Jean-Baptiste de La Salle, en particulier, l'inventeur du tableau noir, c'est Saint Jean-Baptiste de La Salle. Alors, vous me direz, le tableau noir, aujourd'hui, c'est dépassé. Mais c'est dépassé. Ça n'est pas dépassé dans la mesure où ça permet, vous l'aurez compris, ça permet l'enseignement collectif. Puisque ce qui est la grande révolution pédagogique de Saint Jean-Baptiste de La Salle, c'est d'avoir permis aux enfants de ne pas seulement se trouver quelques minutes avec un maître enseignant qui lui consacre juste avec sa férule et puis de manière souvent brutale qui lui consacre 5 minutes, mais au contraire de pouvoir prendre l'ensemble d'une classe et d'enseigner devant la classe. Alors ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, qui pourrait peut-être être dépassé, qui le semble, mais qui est une grande modernité au XVIIe siècle. Alors, d'autres réflexions encore. Marcelin Champagnat, pour les maristes, lui, il demande à développer l'esprit et l'attention, à former le jugement. Et puis la pédagogie, on a évoqué les jésuites, la pédagogie ignatienne, qui déjà crée l'enseignement personnalisé et individualisé, qui est une des préoccupations majeures du système éducatif aujourd'hui. Voilà. Et d'une façon plus moderne, je ne sais pas, quand j'étais jeune enseignant, on parlait beaucoup du père fort, je ne sais pas s'il est aujourd'hui, on vous en parle encore, puisque lui, il a donc vécu de 1904 à 1988, on est donc au XXe siècle, et c'est lui qui a aussi promu la pédagogie personnalisée et communautaire. Alors, il y a donc il y a bien sûr d'autres novateurs que dans l'école catholique, hein, on les évoquera aussi. Tout à l'heure, je parlerai du site de Philippe Mérieux, qui justement explore tous ces grands pédagogues et leur œuvre. Alors, Marcelin Champagnat aussi promeut l'engagement personnel de l'éducateur. Ça, c'est une chose qui est d'ailleurs souvent une pierre d'achoppement entre, les choses ne sont pas manichéennes, hein, mais entre les préceptes de l'éducation catholique et ceux de l'éducation laïque. Puisque Marcelin Champagnat dit « Pour bien élever les enfants, il faut les aimer ». Et un des grands éducateurs, Don Bosco, dit « Il importe non seulement que les garçons soient aimés, mais qu'ils se sachent aimer ». Et quand on entend « aimer », pensons qu'il s'agit non pas d'amour affectif, bien que l'amour affectif ait droit de cité, mais il s'agit essentiellement d'amour de celui dont Dietrich Bonhoeffer dit « spirituel ». C'est celui qui est l'amour qui permet véritablement d'aimer. Le seul, d'ailleurs, puisque tous les autres sont fugaces. Et celui-ci, c'est celui dont nous parlons quand nous parlons, pour ceux qui sont croyants, quand nous parlons de l'amour du Christ, c'est cet amour-là, amour réciproque. Et c'est ce même amour que Marcelin Champagnat, Don Bosco, recommande aux éducateurs. Et alors ça aussi, c'est d'une grande modernité, c'est Don Bosco qui le dit. On est au 19e siècle. Don Bosco dit... Et vous savez son œuvre, lui, il est allé directement voir les voyous de Turin, mais des enfants qui étaient en marge de la société et pré-délinquants ou délinquants. Et il est allé les récupérer pour leur permettre de revenir dans la société. Il ne s'agissait pas de les plier à la société, il s'agissait de leur trouver une place de manière à ce qu'ils ne se perdent pas. C'était l'idée de Don Bosco. En venant ici, j'entendais, c'était sur France Culture, j'entendais une association dont la préoccupation était d'éviter à des jeunes la prison et d'essayer de les reprendre en les faisant travailler. Alors là, il s'agissait d'un cirque essentiellement. Oui, on leur demandait de venir travailler dans un cirque et il leur fallait reprendre la totalité de leur éducation puisqu'il s'agissait même simplement de pouvoir, vous le savez, se lever le matin, se lever et dire « je vais travailler ». Ou même savoir faire des choses. Il y avait un des jeunes qui parlait dans son langage, qui était à la fois évidemment maladroit, malaisé, importance de l'éducation à la langue, et en même temps qui montrait l'infinie souffrance de ce garçon. Il disait « moi, je ne savais même pas faire la vaisselle ». Je ne savais même pas faire la vaisselle. Moi, je partais le matin avec mes potes, et puis, qu'est-ce qu'on faisait? On volait un peu, on se couchait à 2h du matin, et voilà, on rentrait à la maison, c'était tout. Leur vie, à ces enfants, c'est évidemment le début de l'entrée dans la délinquance. Et ensuite, la prison, et puis tout ce qui s'ensuit. Et finalement, on peut arriver à un moment où on les perd. Vous vous rappelez les paroles de Victor Hugo, vous savez, en parlant de Claude Gueux, cette tête que vous allez couper, si vous aviez pris le soin de l'arroser et de l'instruire, vous n'auriez pas aujourd'hui à la couper. Eh bien, l'œuvre de Don Bosco repose essentiellement sur ce principe. C'est Don Bosco, école catholique. Il y en a encore des écoles de Don Bosco, des Salésiens, aujourd'hui. Et puis, donc, ce que de recommander Don Bosco, c'était l'éducation et l'évangélisation de nombreux jeunes, surtout parmi les plus pauvres, nous incite à les rejoindre là où ils sont et à les rencontrer dans leur manière de vivre. Ça fait penser, si vous avez lu ce que dit notre pape François actuellement, eh bien, comment il dit, lui, aller aux périphéries. Hein, vous avez entendu. On entend exactement les mêmes choses. Mais pourquoi le pape François dirait-il autre chose que ce que l'Évangile a toujours dit? Voilà. Alors, je voudrais maintenant dire qu'aujourd'hui, on peut bien parler d'une mutation de la question éducative. Parce que l'éducation, c'était apprendre. Jusqu'à une période relativement récente, c'est-à-dire que on se disait, ben, nous allons donner à la famille, grosso modo, à la famille, le soin de transmettre, et à l'école, le soin d'apprendre et d'instruire. Et ce compromis sur le plan éducatif entre l'institution familiale, si j'ose dire, et l'institution éducative, a perduré, on peut dire, jusqu'au début du XXe siècle. Et puis, les fractures sont apparues. Je crois qu'il y a un texte extrêmement intéressant qui est signé Paul Valéry. Paul Valéry s'adresse dans ce texte-là, qui est souvent d'ailleurs utilisé dans les écoles, et il s'adresse aux écoliers du collège de Sète. Vous savez, il est originaire de Sète, et on lui a demandé de venir, c'est une personnalité importante, un grand écrivain, et un ambassadeur, etc. Et Paul Valéry va faire un discours pour la remise des prix. Et dans ce discours, il ne fait pas que flatter la situation actuelle. Il dit « Votre situation, je vous le dis, sans joie et sans ménagement, est bien plus difficile que ne fut le nôtre. Votre destin personnel, d'une part, le destin de la culture, d'autre part, sont aujourd'hui des énigmes plus obscures qu'ils ne le furent jamais. Les études, jadis, conduisaient assez régulièrement à des carrières où la plupart arrivaient à s'établir. Entreprendre ces études, c'était en quelque sorte prendre un train qui menait quelque part, sauf accident. On faisait des classes, on passait, quitte à s'y reprendre, ses examens et ses concours, on devenait notaire, médecin, artilleur, avocat ou fonctionnaire, et les perspectives offraient à qui prenait quelqu'une de ces voies, déjà bien tracées et jalonnées, un sort à peu près sûr. Les diplômes, en ce temps-là, représentaient une manière de valeur or. On est en 1935, hein, pour situer le texte. Hélas, jamais l'avenir ne fut si difficile à imaginer. À peine le traitons-nous en esquisse, les traits se brouillent, les idées s'opposent aux idées, et nous nous perdons dans le désordre caractéristique du monde moderne. Vous savez assez que les savants les plus subtils ne peuvent rien en dire qu'ils ne se sentent aussitôt tentés de se rétracter. Qu'il n'ait de philosophe, ni de politique, ni d'économiste qui puisse se flatter d'assigner à ce chaos un terme dans la durée et un état final dans l'ordre de la stabilité. Cette phase critique est l'effet composé de l'activité de l'esprit humain. Nous avons, en effet, en quelques dizaines d'années, et là il faut considérer la Première Guerre mondiale comme une rupture essentielle, hein, en quelques dizaines d'années, créé et bouleversé tant de choses aux dépens du passé, en le réfutant, en le désorganisant, en refaisant les idées, les méthodes, les institutions, que le présent nous apparaît comme une conjoncture sans précédent et sans exemple, un conflit sans issue entre des choses qui ne savent pas mourir et des choses qui ne peuvent pas vivre. Vous voyez l'intérêt de ce discours qui inaugure d'une certaine manière les grandes préoccupations des institutions éducatives aujourd'hui. Alors, on peut citer aussi un auteur allemand, Gérard de Hahn, qui le dit en termes frappants, « Nous vivons la fin de l'éducation de la jeune génération par la génération précédente qui existait depuis l'origine. » Voilà, c'est ainsi présenté cette rupture éducative et qui est d'ailleurs le souci des parents, le souci des éducateurs, le souci des réformateurs du système éducatif, enfin votre souci à vous tous, puisque nous sommes tous, que nous soyons parents, grands-parents, éducateurs professionnels ou éducateurs amateurs, si on peut dire, nous sommes tous confrontés à cette difficulté de la situation éducative d'aujourd'hui. Alors, la transmission est beaucoup critiquée, ce qui était normalement. Alors, si on pourrait citer encore, excusez-moi, mais Émile Durkheim, qui est un grand sociologue et qui a écrit un livre essentiel, qui s'appelle Éducation, vous en avez sans doute entendu parler, Éducation et sociologie. Et il y a un texte là-dedans qui est souvent cité et qui dit ce qui définit l'éducation. Or, la définition qu'il en donne ne peut plus satisfaire aujourd'hui. Alors, voici la définition. Il dit: l'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et mentaux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné. Eh bien, cette idée de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et mentaux que réclame de lui la société dans son ensemble, c'est-à-dire on forme un enfant pour qu'il puisse s'adapter au système social. Eh bien, étant donné que le système social est lui-même en profonde mutation, comment former les enfants aujourd'hui? Et c'est ce questionnement qui a fait que les pédagogues se sont dit: que faire pour répondre à cette question? Et c'est l'éducation nouvelle, vous savez, la pédagogie nouvelle, les grandes pédagogies nouvelles. Vous connaissez Célestin Freinet, Maria Montessori, et puis les grands initiateurs, c'est Rousseau, le grand initiateur avec l'Émile ou l'éducation, ce grand texte éducatif repris par Pestalozzi. Ce sont ces grands textes-là qui sont à l'origine enfin, dont le questionnement est à leur origine. Et à partir de là, aujourd'hui, on critique le pédagogisme. Vous savez combien il y a, avec mépris, on parle de pédagogisme. Enfin, puis vous connaissez les grands débats entre Philippe Mérieux et Alain Finkielkraut, par exemple. Eh bien, ces débats-là sont des débats d'ailleurs intéressants, et on pourra les évoquer dans notre discussion, mais ce sont des débats qui ne peuvent qu'exister, puisque cette dialectique-là existe. Et il serait ridicule, je dirais, de vouloir supprimer cette dialectique en supprimant un des aspects, en disant, ben, supprimons la pédagogie nouvelle et vous verrez que tout ira bien. Ça veut dire le retour au passé. Et le retour au passé, toujours le pape François, écoutez, vous pouvez lire et écouter ce qu'il en dit. C'est une illusion. Hein, les restaurations, il y en a eu dans l'histoire de France. Bon, eh ben, elles ont fait long feu, vous le savez bien. Il n'y a pas de restauration possible, il n'y a qu'une invention. Et l'invention est déstabilisante parce que, comme le dit Paul Valéry, on voit quelque chose qui est en train de mourir, on ne sait pas ce qui est encore en train de naître. Espérons qu'à un moment, nous serons dans une situation plus stable et que la définition de l'éducation soit claire et qu'on puisse former des maîtres en disant voilà comment on doit faire et qu'on puisse accueillir des enfants en disant voilà ce que nous allons faire et qui est très clair et que les parents sachent voilà ce qu'on fait dans les établissements scolaires et on est sûr que c'est une bonne chose. Mais nous sommes dans une situation d'instabilité. Mais la situation d'instabilité, c'est le principe d'entropie cher à Edgar Morin, enfin, c'est un principe de physique pour les scientifiques, mais ce principe d'entropie, c'est que un corps stable, à un moment, cette stabilité génère elle-même sa propre instabilité. Et cette instabilité finit par créer de la stabilité. Et c'est ça le principe physique d'entropie. Alors Edgar Morin, le sociologue, lui l'accorde à nos sociétés. Et nous, eh bien, ce soir, nous pouvons essayer de l'accorder à l'éducation. Ce qui nous permet, alors je vais m'arrêter maintenant, j'aurai encore des millions de choses à dire, bien sûr, mais je vais m'arrêter pour permettre un échange, un questionnement, bon, et ne comptez pas sur moi pour répondre à toutes vos questions, hein, il s'agit d'un échange, tout simplement. Cette instabilité est pour nous, en tout cas si nous avons une perspective chrétienne de l'éducation et de l'évolution de nos systèmes sociaux, non pas source d'inquiétude, mais source d'espérance. Parce que justement, ce que nous pensons, c'est que ce qui va surgir de cela, ce n'est pas un effondrement total. Vous savez, on entend souvent vulgairement dire on va dans le mur, on va dans le mur. Alors on le dit sur le plan politique, sur le plan économique, etc. Mais on va dans le mur. Qu'est-ce que ça veut dire? De quel mur s'agit-il? Il n'y a pas de mur. Il n'y a qu'une espérance fondamentale, c'est celle de la vie éternelle. Eh bien, cette espérance-là, elle est vraie aussi pour l'éducation. Je vous remercie.